Une vie, une œuvre, Maria Callas, 1923, New York, 1977, Paris. Sophie Cecilia Kallos est la fille de George Kaloyeropoulos et d'Evangelia Dimitriadou. Lors de son baptême orthodoxe, elle reçoit deux prénoms, Anna et Maria. Son enfance est celle d'une enfant prodige. À l'âge de 11 ans, elle passe sa première audition radiophonique. Pourtant, elle est amère et déclare « Ma sœur était mince, belle et attirante, si bien que ma mère l'a toujours préférée à moi. J'étais un vilain petit canard, grosse, maladroite et mal aimée. Il est cruel pour un enfant de ressentir qu'il est laid et non désiré. Je ne lui pardonnerai jamais de m'avoir volé mon enfance. Pendant toutes les années où j'aurais dû jouer et grandir, je chantais ou gagnais de l'argent. » Sa vie sera entièrement vouée au chant, d'Athènes à la Scala de Milan, de l'opéra lyrique de Chicago à celui de Paris. Elle demeure comme la diva, tant pour sa voix unique que ses nombreux caprices. François Connac signe, avec Olivier Guérin, Une vie, une œuvre, Maria Callas.
Vous aimez l'opéra ?
Non. J'aime la Callas. Ça arrive une fois, le Bach une fois, et le Christ une fois, et Rembrandt une fois, et la Callas une fois.
C'est un don de divin, c'est un don de la nature, c'est un don de Dieu. C'est un talent, un grand talent.
C'est pas du tout la voix du siècle. C'est peut-être la voix du siècle parce qu'il est un génie. Et il le savait très bien, c'est une voix inégale. C'est une voix qui a beaucoup choqué au commencement. Mais je dirais quelque chose qui va vous sembler totalement absurde. Elle n'est qu'un interprète. Elle a le génie du style, voilà.
Si on écoute ses disques en suivant une partition, on se rend compte que son obsession, c'était ne pas trahir.
Il restera toujours quelque chose d'extraordinaire, le nom de Maria Callas.
Quand j'ai vu Maria Callas dans le rôle, j'ai vu que je n'avais jamais rien compris.
Prima donna, justement, doit être respectée, parce que prima donna, c'est des années de sacrifices, des études, de vivre...
Elle était une force magnétique sur la scène.
Sombre avec la partition et chercher de comprendre ce que le compositeur voulait et ce que tu dois faire avec la musique, avec la scène, avec les notes, avec la voix, avec je ne sais pas quoi. Croyez-moi, c'est un métier très dur de notre.
Les autres n'existaient plus.
Et alors, c'est pour ça que j'insiste que d'être prima donna, j'en suis très, très fière.
Et forse qui, qu'il vil sicuro sta.
Les dieux sont muets, les anges chantent. Aucune créature, aucun être de chair et de sang n'a chanté comme Maria Callas. C'étaient les dieux, l'instinct primordial, les forces telluriques de l'univers qui s'exprimaient par sa voix. Une voix grecque, aride comme les collines de son pays, et aveuglante comme le soleil qui les brûle, une voix démesurée, marquée par l'hubris, signe de reconnaissance des héros tragiques. Maria Callas est née à New York, où elle passera son enfance, mais c'est en Grèce, à Athènes, qu'elle grandira. Alors, comment devenir la première chanteuse de son temps ? Par la maîtrise parfaite de l'art du bel canto. On se prit à rêver de Malibran, Pasta, Colbran. Derrière la virtuosité vocale, les pleurs de Lucia, l'espièglerie de Rosine, la mélancolie de la reine Anne Boleyn, des paroxysmes de beauté et de douleur. Irma Colassi.
Elle s'appelait
Kaloyeropoulou, un nom 100% grec. Mais déjà à Athènes, jeune débutante, elle avait une jolie voix, à l'époque, vraiment une très jolie voix, pas forcée du tout. Je lui ai surtout fait travailler le fidèle de Beethoven, et malgré sa corpulence, je dois dire qu'elle a été parfaite. J'ai très bien connu le professeur, Elvira de Hidalgo, qui était une chanteuse d'opéra espagnole, et Hidalgo lui a refilé tous les trucs de l'opéra.
Well, my ambitions were very high, since my father's laboratories are closed.
Father was a chemist. Well, what are you doing now?
Il faut rappeler que, enfant, Callas a beaucoup écouté la radio. Elle écoutait notamment les retransmissions du Met. Elle écoutait à la fois Lily Pons, mais aussi Rosa Poncel, qui était en quelque sorte Callas avant Callas.
Quand on aimait la musique, immédiatement on se branchait sur les postes de radio qui transmettaient ces spectacles et qui étaient régulièrement radiodiffusés. Ça formait des gens, ça a formé des jeunes chanteurs comme Callas, qui écoutant quelqu'un comme Rosa Poncel, qui était à l'époque la diva divine des États-Unis, et Poncel qui s'était fait une réputation en chantant surtout la Norma de Bellini. Donc en écoutant cette voix, elle a sans doute pensé à ce moment-là de devenir elle-même, je serai un jour Rosa Poncel. Et elle a si bien écouté que lorsqu'on écoute un disque de Rosa Poncel, on le compare avec un disque de Callas, Les Heures de la Vestale, par exemple, on se rend bien compte, n'est-ce pas, que certaines couleurs de Poncel sont passées dans la voix de Callas.
Grosse, presque maladroite, mais dépourvue, mais absolument dépourvue de charme. Et elle était laide en plus. Elle était myope, elle avait de gros yeux globuleux absolument, et de grosses lunettes. Elle était vraiment, mais vraiment, carrément moche. Hein.
Sergio Segalini, les vrais débuts de Callas auront lieu un certain été 1947 dans les arènes de Vérone, dans un rôle inattendu, la Gioconda.
Alors les débuts pour elle ont été très très difficiles, parce qu'autant bon, en Grèce ça a marché entre 39, 38, 39, 44, c'était la période de la guerre, après elle part aux États-Unis à nouveau, et il faut bien le dire, aux États-Unis entre 44 et 47, personne n'en veut. Personne n'en veut parce que sa voix ne plaît pas. Et c'est un ténor italien qui savait que les arènes de Vérone cherchaient une Gioconda, qui téléphone ou écrit au directeur des arènes de Vérone en disant « J'ai une Gioconda qui est très bien ». C'est une gréco-américaine. Elle arrive, elle fait ses débuts à Vérone, dans Gioconda. Des débuts qui ne marchent pas non plus, parce qu'entre 1947 et 1950, disons, il y a trois ans, où elle chante un peu partout, parce que la voix est très importante, c'est une grosse voix, avec de grands moyens, parce que c'est une voix qui était sur trois octaves, qui passait du la grave au sol sur aigu. Donc c'était assez impressionnant, mais c'était une grosse voix. Alors, comme telle, elle était employée pour les rôles dramatiques, Aïda, Force du Destin, et surtout Wagner, Tristan et Isolde, Brunhilde de la Valkyrie, Kundry de Parsifal, donc le gros répertoire. légende Callas commence ce soir-là. Elle chante la Valkyrie, et sous la direction de Tullio Serafin, qui va être très important pour elle, et la chanteuse prévue pour les puritains, qui s'appelait Margherita Carosio, tombe malade. On cherche une remplaçante, on ne trouve pas de remplaçante, et Serafin dit, on prend Maria Callas. C'est pas possible, le directeur dit, comment une Brunhilde peut chanter les puritains, c'est pas possible. Faites-moi confiance, je la connais, elle va vous le chanter. Elle a pris le rôle en très très peu de temps, et entre deux représentations de la Valkyrie, elle a donc chanté les puritains, qui est un rôle à l'époque défendu par les coloratures aiguës. Elle le chante, et c'est pour ça qu'est née la légende Callas ce soir-là, parce que est née, si vous voulez, une nouvelle manière de chanter, une nouvelle façon d'aborder le théâtre lyrique, c'est-à-dire avec une voix dramatique. Elle a montré que ses rôles de colorature italiens étaient destinés non pas donc à des coloratures allégées, mais étaient destinés donc à des coloratures dramatiques de force. Donc ça a été tout un retour à l'esthétique du début du XIXe siècle. Elle a retrouvé d'emblée la vocalità de Giuditta Pasta, de Maria Malibran, en fait de toutes les divines du début du XIXe, devant un public qui, une partie, s'est dit « mais c'est incroyable ». On entend ça pour la première fois. C'est vrai, le mythe de Maria Malibran continue. Et d'autres qui ont dit « mais c'est horrible ». Donc ça a été un peu difficile jusqu'à 1951-52, quand la Scala, qui ne la voulait absolument pas, Ghiringhelli dira, quand on lui parlait de Callas...
Ghiringhelli qui, rappelons-le, était le surintendant de la Scala.
Si, était le patron. Tel que patron, et on lui disait, mais pourquoi vous ne engagez pas Callas? Callas ne mettra jamais les pieds chez moi. Et puis je crois que devant l'évidence, il l'a engagé d'abord dans les Vêpres siciliennes, opéra complètement oublié de Verdi. Elle l'a engagé ensuite pour Macbeth, autre opéra complètement oublié, parce que la force de Callas, c'est d'avoir accepté à ce moment-là des rôles que personne ne connaissait. Elle savait peut-être que, en chantant Tosca, Aïda, Forza del Destino, Bal Masqué, etc., on ne l'aurait pas accepté. Donc, elle a accepté ses contrats de compositeurs comme Rossini, comme Bellini, comme Donizetti et certains Verdi, qui, à l'époque, étaient totalement inconnus. Bien compris de toute façon qu'elle avait une voix particulière, parce que quand elle chantait des concerts à la RAI, lorsqu'elle alternait les clochettes de l'Acmé ou alors carrément les variations de Proc avec les deux contresols, et que la seconde page qu'elle chantait dans le concert c'était Lady Macbeth ou que c'était Nabucco ou c'était le suicide de la Gioconda, elle comprenait qu'elle était la seule à pouvoir faire ça. Quand elle a chanté l'Armide de Rossini à Florence, par exemple, c'était là aussi un gros événement parce qu'on n'avait jamais chanté d'opéra seria de Rossini auparavant, elle a compris que c'était là son répertoire. Et quand elle s'est présentée le 7 décembre 1954 à la Scala de Milan pour la troisième fois pour l'ouverture de la saison, eh bien, là, la grosse dame grecque-américaine qu'elle était, pesant plus de 100 kilos avec des mollets et des bras plutôt irrégardables, disons, eh bien, on trouve une femme mince, élégante, qui a appris un tas de choses, qui a appris à se maquiller, qui a appris à s'habiller, et qui a aussi appris à jouer. Donc, est née, je crois que le mythe Callas, Callas comme légende, Callas comme phénomène de masse, appelons comme ça, est vraiment la consécration, est le 7 décembre 1954, où tout le monde est allé à l'opéra ce soir-là, parce que toute l'intelligentsia mondiale a voulu, parce que c'était la Vestale de Spontini, le grand rôle de la Poncelle d'ailleurs. Il y a eu même Toscanini qui est venu dans la salle, est venu l'entendre. À partir de ce jour-là, Callas devient la reine de la Scala. Devenir, dans les années 50, la reine de la Scala, voulait dire devenir la reine du monde.
Take 94. Ninety-six.
Réal La Rochelle, situant d'emblée peut-être la place emblématique de Callas dans l'industrie du disque, dans ce que vous nommez, je crois, la machine fantasmagorique du disque.
L'essentiel de la mythologie Callas est formé, évidemment, du très très large corpus de tous ces enregistrements, mais au premier chef, des enregistrements qui ont été les enregistrements de studio. On a mis sur pied à la fois l'enregistrement sur bande magnétique, mais aussi l'apparition du micro-sillon, du disque de longue durée, fait en sorte qu'on est capable maintenant de produire et de diffuser de très, très bonnes intégrales d'opéra. Dario Soria convainc d'abord Callas d'enregistrer pour Cetra et Angel Records, et là, il va convaincre rapidement Callas et Meneghini de s'associer plutôt à EMI, et on va faire signer un contrat à Callas et à Meneghini à l'été 1952. Donc, à ce moment-là, non pas un contrat pour faire un ou deux titres, mais un contrat d'exclusivité, si bien que EMI s'attache maintenant Callas comme une grande vedette, un peu comme faisaient les grands studios à Hollywood quand ils faisaient signer des contrats d'exclusivité sur une plus longue durée.
Nous sommes dans les années fastes, les années 53-57,
oui.
Où EMI et la Scala constituent une sorte de pôle de coopération, constituant aussi un pont magique entre Milan et l'Amérique.
Oui.
Et c'est cette phase qu'on pourrait qualifier de production intensive et de marketing triomphant.
Oui, tout à fait. Ça ne dure que 5 ans, ça dure de 53 à 57. Ces 5 années, c'est des années tout à fait fabuleuses. Et à chaque année, c'est 3 ou 4 intégrales auxquelles viendront s'ajouter quelques récitals.
Mais à titre d'exemple, rien qu'entre avril et août 54, 4 intégrales dans l'été.
Oui, tout
Norma,
à fait.
Norma, Payas, Force du Destin et le Turc
et
en Italie.
Turco en Italie. Et l'année précédente...
Ce qui est prodigieux. Enfin,
c'est prodigieux.
Ça ne s'était jamais fait,
non,
ça ne se fera plus.
C'est vraiment une production qu'on peut appeler une production industrielle. C'est la chaîne de montage. Et c'est à la fois la capacité technique, artistique et le génie de Callas de pouvoir être capable de faire tout ça, malgré tout ce qu'elle fait sur scène, partout, d'être capable de se concentrer comme ça sur des rôles aussi divers, où il faut à la fois des titres très grand public, très commerciaux, de bons vendeurs, comme on dit familièrement maintenant, mais il faut aussi des ouvrages qui sont un petit peu plus risqués, qui font partie de son répertoire et déjà de sa célébrité.
Sa voix. La première note était la matière même du souffle retenu, gros d'une émotion qui ne peut plus rester enfouie. Et celle qui suivait, la première, le chant de l'oiseau qui enferme la nuit, le silence de la nuit et dans la continuité de la mélodie, exprime une douleur impersonnelle, aveugle, de nature désespérée, libérée par la musique, obéissant à la mesure, mais prenant en charge le corps tout entier.
Alors l'homme qui est à l'origine de ces enregistrements, il faut citer son nom, c'est Walter Legge,
oui.
L'époux d'une autre fameuse cantatrice, Elisabeth Schwarzkopf. La collaboration entre Legge et Callas n'a pas toujours été au beau fixe. Il y a eu quelques vagues, on pourrait en rappeler quelques-unes.
Oui, on pense comprendre par le fait de ce qu'a écrit Walter Legge lui-même, qu'a publié Schwarzkopf, que c'est Walter Legge qui est le grand responsable de tout, d'avoir découvert Callas, d'avoir même menacé de démissionner de EMI si EMI n'engageait pas Callas. Or, c'est pas aussi net que ça, parce que la première année 53, par exemple, c'est une équipe italienne de la Voce del Padrone, qui est la filiale de EMI en Italie, qui supervise les enregistrements de Lucia, de Puritani, de Cavalleria, et Walter Legge n'intervient que pour Tosca d'abord. Et on s'aperçoit, puisque j'ai eu l'autorisation de publier les scripts des enregistrements de Callas chez EMI, c'est que Walter Legge n'est même pas présent aux sessions d'enregistrement. Alors on se dit, mais où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Walter Legg s'était mis en tête de faire le Requiem de Verdi dirigé par De Sabata, de le faire avec Schwarzkopf et Callans. Alors évidemment, Schwarzkopf dans le rôle soprano et Callans dans le rôle mezzo. Pourquoi ce Requiem n'a pas été fait avec Callans? Ça aurait été admirable parce que l'ouvrage de Verdi lui convenait très très bien et on aurait eu là une perle rare dans la discographie de Callans, qu'il faut-il le rappeler, ne contient que de l'opéra.
Élisabeth de Valois, Orphée et Eurydice, L'Enlèvement au Sérail, Armide, Macbeth, Médée, Alceste.
On devrait considérer tout ce que l'on a fait comme une répétition et recommencer l'enregistrement de la première à la dernière note.
Sergio Segalini.
Amy, évidemment, fait des bêtises, mais ça, on les comprend, parce que ils doivent vendre leurs disques. Déjà, ça se vendait pas beaucoup à l'opéra à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Alors, on va lui demander des enregistrements que je considère inutiles. Ils n'ont pas imaginé ce que ça allait devenir. C'est ça le drame, c'est que Legg n'a pas compris qu'elle allait devenir une mythologie telle que n'importe quoi elle aurait enregistré, elle l'aurait vendu. La Traviata de Visconti avait eu lieu, quand tous les journaux en avaient parlé du monde, pas seulement d'Italie, bien évidemment. Les Français commençaient à faire des pèlerinages à la Scala pour aller la voir. Dans la suite, quand elle devait créer Macbeth aux États-Unis, créer, parce que Macbeth n'avait jamais été joué aux États-Unis, vous savez que le disque prévu avec Warren devait paraître chez RCA. Pour vous dire à quel point on était, comme on dit vulgairement, ils étaient passés à côté de la plaque.
Lady Macbeth, la voix laide, voulue par Verdi et que Toscanini attendit toute sa vie, en vain. Gianbattista Meneghini, l'époux de Maria, mais aussi son agent, négocia toutes les ouvertures de saison de la Scala, des débuts toujours fracassants. Londres, New York, Berlin, Chicago. Les cachets aussi flambaient. Les meilleures baguettes se la disputeront, car Ryan, Bernstein, Giulini. Giulini, avec Visconti, un soir, à la Scala, s'arrêtera de diriger tant la beauté du spectacle le submergeait. Visconti, bien sûr, conçut pour Callas des mises en scène sur mesure, une Traviata transposée, révolutionnaire. La Vestale, Iphigénie Antoride, la Somnambule, Callas ou la voix théâtre. Anna Bolena, en 1957, fut un couronnement au cœur des ténèbres. Les inconditionnels de Renata Tebaldi durent se faire une raison. La Scala désormais appliquait une politique de création, de recherche. Leur reine partit en exil, laissant Callas seul, face à la gloire, à ses détracteurs, à la presse à scandale. Michel Glotz, 1958, c'est une année charnière, une année qui connaît des accrocs. Plusieurs portes de grandes maisons d'opéra se ferment.
Non.
L'opéra de Rome, la Scala et le Met.
Non. Rome, elle avait prévenu le directeur où elle devait faire l'ouverture de la saison dans Norma. Vous n'ignorez pas la rivalité entre Milan, dont elle était la reine, et Rome, capitale de l'Italie. Elle avait prévenu le directeur, dont elle ouvrait la saison dans Norma, qu'elle était malade et qu'il fallait absolument prévoir une doublure. Le directeur, pensant que c'était psychosomatique, n'avait pas prévu de doublure, mais lui avait dit qu'il en avait une, à savoir Madame Cerquetti. Alors, elle est arrivée, effectivement, avec une voix qui n'était pas dans ses meilleurs jours, et avant même d'avoir ouvert la bouche, elle a été accueillie par des sifflets, qui étaient les sifflets reflétant la rivalité entre la Scala et Rome. Et à l'entracte, elle a fait venir le directeur et elle lui a dit « Je ne continue pas la représentation parce que je ne le peux pas physiquement, faites venir ma doublure. » Elle l'avait déjà fait dire à plusieurs reprises pendant le premier acte. Et la doublure, elle n'était pas là pour la bonne raison qu'elle n'avait jamais été appelée. Alors, elle est donc partie sous la protection de la police jusqu'à son hôtel. En ce qui concerne le Met, elle chantait à Dallas juste avant. Et il avait été précisé dans son contrat entre elle et M. Bing, et j'en suis le témoin, que comme elle chantait trois rôles qui étaient très très différents comme tessiture, elle chantait Macbeth, Traviata et Lucia. Et donc elle avait mis comme condition qu'elle chanterait Macbeth, la nouvelle production, d'abord, qu'ensuite on passerait aux représentations de Traviata qui était une tessiture plus élevée, et enfin qu'on terminerait, une fois que la voix était bien placée dans l'aigu, par les Lucia. Et quand elle a été à Dallas chanter Médée, avec d'ailleurs Berganza dans cette distribution, elle a appris tout simplement par les journaux, en voyant la brochure du Metropolitan Opera, que, en fait, M. Bing avait mélangé Macbeth, Lucia, Traviata à son gré. Et là, elle a annulé en disant que ce n'était pas conforme à l'engagement pris, et elle a dit cette phrase célèbre, qui est vraie, que sa voix n'était pas un ascenseur à la disposition d'un petit caporal autrichien.
La chose inouïe était que, après le scandale de Rome, après donc qu'elle ait quitté la Norma au beau milieu de la soirée, elle avait donc à ses pirates à la Scala de Milan, où elle a appris qu'on ne lui confiait rien la saison d'après.
Pourquoi ?
Parce que c'était un objet de scandale, parce qu'elle s'était mal comportée à Rome, donc c'était une position de morale. Elle chante donc ce fameux pirate, sachant que c'était la dernière représentation de la Scala, et elle quitte la Scala. Sur cette différence qu'elle a eue d'emblée, elle s'est quand même entièrement construit un personnage. Par exemple, on parlait de la Vestale à la Scala de Milan en 1954, de la laisser ce gros donjon 6 mois auparavant et de se trouver Audrey Hepburn jouant la Vestale. Je veux dire, ça, c'est le public reçoit un choc à ce moment-là. Donc automatiquement, on rentre dans la légende aussi avec ça.
Eh bien, nous avons déjà maintenant une impression bien nette de ce qu'est Maria Meneghini Kallas.
Paris, 19 décembre 1958.
Car nous l'avons vue pour la première fois à Paris et nous l'avons vue. Vous l'avez entendu. D'ailleurs, je m'interromps un instant. Voici Madame Kallas qui passe et qui va vers. Madame Kallas, un mot.
Attendez.
Simplement, vous êtes.
Je suis émue.
Vous êtes
émue.
Je vous
remercie, je suis émue.
Merci beaucoup. Et Madame Kallas, maintenant, se rend au premier étage pour être présenté à Monsieur le Président de la République.
La dernière visite du président, officielle du président Coty a été en l'honneur de ce gala de la Légion d'honneur où il y avait vraiment le, non seulement le tout Paris, mais le tout Europe, en décembre 58. Et c'était transmis, et ça c'est une rareté à l'époque, la soirée intégrale était transmise en Eurovision. Et ça a été un phénomène sociologique extraordinaire puisqu'on s'est aperçu. Les polices des différents pays de l'Eurovision se sont aperçus que la circulation sur les autoroutes et sur les routes a été pratiquement nulle pendant le temps de l'émission qui a quand même duré 3 heures, inclus les routiers qui se sont arrêtés dans les restaurants qui avaient des postes de télévision, de sorte que ça a été vraiment non seulement un immense événement mondain, plus que tout un immense événement musical, mais aussi un immense événement sociologique.
Lisbonne, 1958.
Alfredo in strano suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo.
Le final d'opera Traviata de Verdi.
Sergio Cigalini, Callas, dans les années 60, traverse tant d'un point de vue professionnel que sur un plan strictement privé, une période de crise. Comment s'amorce ce tourment du point de vue musical ?
La crise est une crise vocale parce que ça a été une crise psychologique. Pour un chanteur, l'équilibre psychologique est la chose la plus importante. Je crois qu'elle avait consacré toute sa carrière au chant et tout à coup, une fameuse rencontre lui fait découvrir l'amour. Sa grande erreur, c'est qu'elle n'a pas réalisé qu'une technique, même la plus grande technique du monde, c'est comme un sportif, je veux dire, si on ne s'exerce pas régulièrement, la technique s'en va, et que le diaphragme est un instrument extrêmement fragile. Ça n'a pas marché aussi parce que la liaison aussi avec Onassis, on n'a pas encore dit son nom, mais tout le monde a deviné, la liaison avec Onassis n'a pas été une liaison de tout repos. Donc entre 59, ils se rencontrent très tôt, vous savez, ils se rencontrent en 57. En effet, les problèmes de Callas vocaux commencent à se faire entendre en 57. En 59, il y a la grande décision de divorcer, et après, en ces années-là, je crois qu'elle l'aimait tellement qu'elle aurait été prête à quitter la scène. Il s'ennuie à mourir à l'opéra, il s'embêtait. Moi, je l'ai vu à l'opéra de Paris un soir, dans une norma, j'étais gamin, j'étais en première année d'université. Et ça ne l'intéressait pas.
Mais je ne veux pas faire des torts à Georges Prêtre, ni à moi-même, ni à tous mes collègues. Mais vous savez, Georges Prêtre parle une langue. La langue que je parle, c'est la musique. Et alors, on ne peut pas se tromper. Ça ne s'explique pas.
En effet.
Ça se sent, c'est tout.
Michel Glotz.
On lui propose pour EMI un disque qui s'appelle Callas à Paris, auquel je contribue beaucoup à la préparation. Je lui fais faire connaissance de Georges Prêtre, elle l'adopte, lui l'adopte, et on fait ce premier enregistrement, Salvagram, qui est un succès absolument phénoménal. Et pour ce Callas à Paris, évidemment, c'était basé sur des airs en français, et bien entendu, son répertoire jusque-là était très peu basé sur des airs français. Mais elle les connaissait de sa jeunesse, quand elle travaillait avec Elvira de Hidalgo à Athènes. Et je vous signale quelque chose que personne ne connaît, c'est qu'elle chantait les mélodies du Parc comme personne. Et par conséquent, elle parlait un excellent français, et son français était très idiomatique. Quelquefois, elle avait des expressions un peu italiennes, mais on ne peut pas dire à proprement parler qu'elle ait appris un répertoire. C'est un répertoire qu'elle s'est remise dans la voix, dans la tête, en français, mais c'était un répertoire qui lui était familier dans sa jeunesse. Et à la suite du triomphe de Callas numéro 1, elle a fait Callas numéro 2, qui a été également un triomphe. Et à la suite de ce triomphe et de la manière dont elle chantait Carmen, je l'ai supplié de faire cette Carmen. Mais n'oubliez pas, la même année, en juillet, nous avons enregistré Carmen. Et en novembre-décembre, nous avons enregistré la Tosca avec Tito Gobbi et Bergonzi et Prêtre. Par conséquent, elle n'a absolument pas changé de répertoire.
Jeannine Reiss.
Vous savez, elle adorait travailler avec Georges Prêtre. Et je crois qu'une grande part de sa détermination de faire cet enregistrement, c'était de pouvoir le faire sous la direction de Georges Prêtre. Alors, en même temps, c'était pour elle une espèce de gageure, vous voyez, que d'essayer de rendre à cette partition ce qui lui revenait. Et aussi parce que le personnage la fascinait. Bon, alors donc, je crois que tous ces éléments réunis... Mais je me souviens qu'à j'étais donc à la salle Wagram, car à l'époque c'était enregistré à la salle Wagram, et quand elle écoutait les bandes qu'elle venait d'enregistrer, tout était mauvais. Il fallait qu'on refasse tout parce qu'elle était mauvaise, qu'elle n'était pas digne de Bizet, elle n'était pas digne de, enfin elle était digne de personne, Maria. C'est pour ça que à chaque fois que j'aurais parlé d'elle, je m'élèverais contre ses potins stupides, sur son orgueil, sur ses nerfs pendant le travail. Elle n'était qu'humilité et que désir d'être l'umila ancella, l'humble servante du compositeur. Elle n'avait que cette obsession, vraiment. Elle pensait vraiment qu'elle était un moyen de transmettre, un instrument. Maria Callas faisait partie de ces chanteurs pour qui la lecture d'une partition est comme la lecture que fait un grand instrumentiste. Elle avait une vision de la construction mélodique, harmonique, dramatique d'un opéra qui faisait que sa lecture était une lecture complète sur plusieurs dimensions. Elle lisait le texte comme une comédienne. Elle avait aussi une connaissance littéraire des sujets qu'elle traitait vocalement. Et puis, elle avait, et ça, je continue d'en parler souvent à des jeunes, et même des moins jeunes que je fais travailler, elle avait cette obsession du respect du compositeur. Elle disait que, malheureusement, comme elle n'aimait pas la musique contemporaine et qu'elle pensait que c'était néfaste pour sa voix, elle ne dialoguait qu'avec des morts. Maria m'avait dit un jour, tu vois, je suis très myope et je ne mets pas de lunettes pendant les répétitions car ainsi je me force à mieux écouter l'orchestre sans trop voir le chef d'orchestre. Ainsi, je marche à la musique uniquement. C'est merveilleux cela. Un jour, elle a voulu travailler m'aider avec moi et elle était absolument terrifiante. J'avais peur et j'ai dû la regarder à un moment donné tout en jouant. D'une telle façon, je ne sais pas. Elle s'est arrêtée à la fin d'une phrase et elle m'a dit « Mais pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Je dis « Mais Maria, je te regarde, je ne sais pas comment je te regarde, mais tu me fais peur. » Et elle a eu un rire de petite fille en me disant « Ah, ce n'est que ça. Ah bon, très bien. Je croyais que tu trouvais ma voix laide. » Non, non, mais parce que tu comprends, je vais t'expliquer. Une femme qui est sur le point de sacrifier tes deux enfants, tu crois qu'elle doit s'occuper de la beauté de sa voix ? Et là, c'était tellement émouvant, car elle a ajouté « Je veux que ma voix soit laide à ce moment-là. Malheureusement, parfois, quand je lui demande d'être belle, elle ne m'obéit pas. »
Sergio Segalini.
Elle est Norma, par exemple, Callas, elle était Norma avant encore de chanter. Zeffirelli lui avait construit une superbe mise en scène parce que dans le cœur d'entrée de Norma, elle arrivait du fond de la scène et elle marchait avec les choristes sur le plateau de l'opéra en demi-cercle. Elle terminait à le cercle en remontant en bas de l'arbre où elle va chanter Castadiva. La démarche qu'elle avait était Norma. Nous, on savait quand elle allait ouvrir la bouche, elle allait être une Norma, qu'elle n'allait pas chanter Tosca ou Traviata. Chose que, par exemple, ça, qu'on n'avait jamais vue et qu'on ne verra presque plus jamais au théâtre lyrique. Il y avait quelque chose aussi de très important en elle, c'est-à-dire le geste. Elle a été une immense actrice, mais elle a été une immense actrice parce qu'elle avait compris qu'être actrice, ça veut dire faire peu de gestes.
Elle disait d'elle-même oui. Qu'elle était une comédienne qui chantait.
C'est exactement. Mais avec une économie de gestes absolument impressionnante.
Hector Bianchotti.
J'ai vu plusieurs fois la Norma avec elle, et même le désastre de la dernière Norma qui s'est interrompue. Elle avait téléphoné à l'opéra pour dire qu'elle remboursait le théâtre, mais qu'elle était malade.
Mesdames, depuis les débuts de cette représentation, Madame Maria Callas a dû surmonter un malaise et une grave dépression. Malheureusement, en dépit de ce courage exceptionnel dont nous la remercions et des soins de son médecin, elle est dans l'impossibilité absolue de terminer cette représentation. Elle en est profondément bouleversée et nous vous demandons avec nous de l'excuser.
S'il y a une figure angoisse, c'est parce que le sujet s'écrit parfois sans se soucier du sens clinique du mot. Je suis angoissé, angoche. Chante quelque part la Callas. La figure est en quelque sorte un air d'opéra. De même que cet air est identifié, remémoré et manié à travers son incipit. Je veux vivre ses rêves, pleurer mes yeux, lucevan le stelle, piangerò la mia sorte. De même la figure part d'un pli de langage, sorte de versets, de refrains, de cantillations qu'il articule dans l'ombre. Roland Barthes fragmente un discours amoureux.
Elle avait cette particularité, littéralement, de s'abolir comme sujet, de se sacrifier comme sujet. C'est le propre de toute bonne interprète à un moment donné, tout au moins par instant, de s'abolir littéralement comme sujet, comme personne, comme femme, comme individu, etc., pour présenter, pour s'identifier à cet objet voix offert à la jouissance de l'autre, en l'occurrence le public, l'auditeur, etc.
Michel Poisat.
Mais cette capacité de s'identifier à la voix en tant qu'objet voix, objet de jouissance, c'est ça qui fonde, à mon avis, le mythe Callas. Et pour elle, c'était une question à un moment donné, il faut voir ce que ça veut dire, s'identifier ainsi à un objet tel que la psychanalyse l'a défini comme objet perdu, objet de jouissance, etc. À un moment donné, on met sa peau en jeu dans cette affaire.
Elle a dit, à plus d'une reprise, « Le jour où je ne serai plus capable de chanter Norma, je ne chanterai plus. »
Sergio Segalini.
Elle a d'ailleurs tenu parole, parce que quand le 29 mai 1965, elle a arrêté la Norma, j'étais dans la salle, avant le tout dernier tableau, ce sera aussi à part une Tosca qu'elle fait à Londres, presque quelques jours après, elle ne mettra plus pour une scène, parce qu'elle a compris ce soir-là à l'Opéra de Paris qu'elle ne pouvait plus chanter Norma. Et ça ne l'intéressait pas de chanter autre chose, si elle ne pouvait pas chanter Norma. Je veux dire qu'elle aurait fait ce répertoire-là, elle a bien enregistré Carmen, mais elle a enregistré Carmen en 64, l'année où elle venait de faire Norma à l'Opéra de Paris.
C'est-à-dire que lorsque la Scala lui proposera en 69 de faire le couronnement de Poppée, elle déclinera l'invitation.
Bien évidemment. Et même chose à Paris, par exemple. Elle chante Norma le 29 mai. Le 5 juillet, elle est à Londres pour Tosca. Et au mois de décembre, elle doit enregistrer Werther pour EMI et Nicolas Higueda à Paris. Elle pouvait parfaitement chanter Werther. Tessiture centrale, voire de mezzo-soprano. Il n'y avait aucun problème pour l'enregistrement de Werther. C'est un rôle qu'elle avait beaucoup étudié. Ça ne l'intéressait plus. Elle l'a dit. Je ne peux plus chanter Norma. Norma qui veut dire puritain, la somnambule, le pirate, le turc en Italie, l'armide, etc., etc. Quand une chanteuse se mesure à un rôle de ce genre, ce rôle est tellement exigeant qu'on trouve les autres d'une grande banalité. Je crois que ce sont des drogues pour une chanteuse. La drogue de Norma lui permettait, le jour après, de chanter Werther. Mais sans la drogue Norma, Werther n'avait pas de sens pour elle.
Je vous dis quand même que Madame Callas a chanté l'air de Musette de la Bohème, puis l'air final de Madame Butterfly, et maintenant, c'est à la demande générale, le bis. Le bis, nous allons l'entendre tout de suite, et nous allons essayer de reconnaître.
Maintenant, j'ai peur. Le public m'a donné une situation splendide, unique au monde. Mais cela vous laisse très seul. Parce que la chute peut être tellement dure. La gloire elle-même fait peur. Parce que l'on comprend que ce n'est pas naturel.
René Cecchetti, vous avez traduit l'œuvre poétique de Pier Paolo Pasolini.
Avec vous, j'aimerais évoquer cette rencontre inespérée entre la tragédienne Maria Callas et le poète maudit Pier Paolo Pasolini.
C'est la rencontre de deux mythes, mais qui ne se connaissaient pas très bien, tous les deux. C'est-à-dire que Pasolini n'était pas du tout un fanatique d'opéra. Maria Callas, par ailleurs, n'était pas du tout une cinéphile. Et elle avait vu Théorème, mais elle n'aimait pas Théorème. Mais elle avait été très émue par l'Évangile selon saint Matthieu. Et elle avait eu beaucoup de propositions de cinéastes pour qu'on utilise, bien sûr, son talent de tragédienne. Qui était...
A commencé par Visconti lui-même.
Bien sûr, puisque Visconti avait révélé les capacités dramatiques exceptionnelles de Maria Callas, en plus de sa voix, bien sûr, des qualités de sa voix. Donc Visconti ne l'a pas convaincu, Dreyer ne l'a pas convaincu, pour Médée également, puisqu'il voulait faire Médée avec elle. Beaucoup d'autres, Zeffirelli, qui était bien sûr celui qui faisait le lien entre l'opéra et le cinéma, non plus. Et donc quand Pasolini vient vers elle, au fond, elle ne sait pas que ce qui intéresse Pasolini, c'est la personne, encore plus que la comédienne, puisque c'était un moment où Pasolini utilisait des acteurs non professionnels, et de manière paradoxale, il va utiliser Maria Callas comme une actrice non professionnelle.
Tornando al cinema, signora Callas, va bene la sua collaborazione con Pierpaolo Pasolini?
Sì, è già dal mese di ottobre che stiamo collaborando insieme sulla Medea.
Quindi quest'opera nasce da una collaborazione
certo,
strettissima.
Strettissima.
Le sue esitazioni maggiori da che cosa dipendevano?
Beh, ecco, per sempre, scusi, lei prima di fare un contratto o di prendere un lavoro esita, ci sono delle... Prima di tutto pensare punti di vista di come pensa lui la Medea, come penso io la Medea, è una strategia.
Parce que Médée est le double de Pasolini. Et il cherchait au fond une comédienne qui soit capable d'incarner ce qui était le plus douloureux en lui, c'est-à-dire un personnage qui a un lien secret avec le sacré, ce qui est le cas du personnage de Médée. Et qui découvre la sensualité à travers le personnage de Jason, et bien sûr la désillusion, la rupture, la trahison, puisque Jason va la tromper. Mais c'est aussi ce langage très mystérieux qu'elle a avec un monde barbare, mais qu'il ne faut pas entendre au sens négatif. C'est comme un univers sacré qui obéit à des lois au fond inintelligibles pour les autres êtres. Et bien sûr, Pasolini a eu raison de faire appel à elle comme une figure symbolique, une vision, une icône. C'est certainement ça qui a fonctionné. Et aussi le fait qu'elle a découvert un homme seul, comme elle était seule. Seul en tant qu'artiste, bien sûr, parce qu'il était en plein malentendu, comme il l'a toujours été, et qui n'avait plus de lien réel, au fond, avec une communauté intellectuelle. Pasolini n'avait pas encore ses grands succès. Mais Médée va être un film pivot, parce que c'est ce qui va déterminer sa nouvelle esthétique. Et il est sûr que l'apparition de Maria Callas va donner une très grande profondeur et une très grande assurance en même temps à l'esthétique de Pasolini.
Oh Dio! Oh giustizia, cara Dio! Oh luce del sole! La vittoria che intravedo sopra i miei nemici sarà splendida! Ormai vado diritta al segno!
La lune est apparue, les eaux coulent, le monde ne sait pas qu'il est nouveau et sa journée nouvelle finit contre les hautes corniches et le noir du ciel. Qu'y a-t-il dans ce vide de l'univers que tu portes dans tes désirs et connais? Il y a le Père, oui, lui, tu crois que je le connais? Oh, comme tu te trompes, comme tu donnes naïvement pour certains ce qui ne l'est pas du tout.
Oh Dio, oh giustizia, cara Dio, oh luce del sole.
Il a écrit des poèmes et des textes de prose pendant le tournage parce que il est certain qu'une rencontre très forte s'est produite entre eux. En plus, ils étaient isolés, ils sont allés tourner dans des régions difficiles quand même, en Cappadoce, et ça va privilégier nécessairement leur rapport. Il écrit plusieurs sortes de poèmes, mais de plus en plus profonds. Bon, le poème le plus célèbre qu'il a consacré, c'est Timor Dimé, c'est-à-dire qu'il reprend les paroles du Trouvert. Et bien sûr, il ironise sur Timor Dimé, en reprenant d'ailleurs le sens même, c'est-à-dire, est-ce que tu aurais peur de moi? Et au fond, ils avaient tous les deux peur l'un de l'autre. Il y avait un interdit qui est un interdit sexuel, puisque bien sûr Maria Callas savait que Pasolini était homosexuel et avait un autre centre d'intérêt sexuel qu'elle. Mais peut-être aussi, ils avaient peur d'une relation de dépendance entre eux. Et ces poèmes le disent, et les lettres de Maria Callas le montrent. Quand on lit parmi les lettres qu'on a retrouvées, la lettre merveilleuse que Maria Callas écrit à Pasolini quand il est certain que Ninetto ne vivra plus avec lui, on voit aussi jusqu'où est allée la profondeur de leur amitié.
Cher Pier Paolo, je suis triste de ne pouvoir être auprès de toi dans ces moments difficiles, comme tu l'as souvent été pour moi. Tu sais bien au fond qu'il devait en être ainsi. Tu dois affronter la réalité, mais tu ne peux pas, car tu ne veux pas. On ne peut se fier longtemps aux autres. C'est la loi de la nature. Nous devons trouver la force à l'intérieur de nous-mêmes, au moins en apparence. Je ne te parle pas comme une mère, cher Pier Paolo. Je ne t'ai jamais considéré comme mon père. Les livres savent beaucoup de choses, mais pas la dure réalité. Et ils n'enseignent pas ce que je pense et que je croirai jusqu'à ma mort, c'est-à-dire ce que seul l'homme peut faire par sa seule volonté, son amour propre et son orgueil. Bien sûr, les paroles ne sont que des paroles, faciles à écrire, etc. Mais quand grandiras-tu enfin, Pier Paolo? Est-ce que l'heure n'est pas venue d'être plus mûre? Même si, merci mon Dieu, on reste toujours des enfants. Je suis là, dommage que tu ne viennes pas, qui sait pourquoi d'ailleurs. Les amis sont là, pour les moments difficiles, je te l'ai toujours dit. Je reste tout le mois d'août aussi, j'aimerais avoir de tes nouvelles. Tendrement, avec l'amitié de toujours. Écris-moi ici, Dragonissi Petali Marmari. Merci pour le télégramme de Londres. Maria, la petite.
On n'explique pas les mythes. On n'explique pas, je veux dire, est-ce que Garbo était une grande actrice? Je ne sais pas. Pourquoi? On a besoin. Je crois qu'un mythe se fait parce qu'on a besoin, parce que quelqu'un vous touche profondément. C'est ça le mythe.
Là, vous pouvez prendre un peu votre temps. Toujours, bien sûr, quand le chef vous le permet. Mais vous essayez de le convaincre. Le problème, c'est de persuader les chefs, car ils peuvent ne pas se rendre compte que c'est important, puisqu'il y a là beaucoup de notes rapides et les orchestres ont tendance à ne pas jouer vite. Cela arrive, mais il faut que ce soit très véloce, avec les mots. Vous comprenez ce que vous dites? Quels sont les mots? Oui, mais expliquez les mots. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux courtisans, vous êtes une race détestable, couarde et damnée. Pour quel prix avez-vous vendu ma chérie? Sa propre fille, c'est ce que ça veut dire, mio bene, une partie de lui-même. Rien ne vous est cher. Mais la mia fille, ma fille est mon unique trésor. Alors quand vous arrivez à là, il faut poursuivre très rapide, hein. C'est très tragique ça. Il faut oublier votre voix, chanter les notes. Mais ceci est très dramatique. On recommence. Il faut que ceci galope, que ça vole. Avez-vous compris? Alors arrive le cantabile. Tout droit jusqu'à l'aigu.
Et quand elle est devenue professeure à Juilliard et qu'elle a fait les fameux masterclass qui sont devenus à la honte de l'humanité et des marchands du temple, la pièce jouée à travers le monde par différentes actrices, dont Fanny Ardant, très mal d'ailleurs, Marie Laforêt, j'ai pas vu et je n'irai pas, Faye Dunaway, je n'ai pas vu et je n'irai pas, parce que la pièce est ignoble, que ce sont des gens qui se sont servis du nom de Maria Callas pour faire de l'argent. Point, une barre.
tout changé. Elle a tout changé. Ce qui est lamentable, c'est que déjà, les gens, les artistes, les chanteurs, les cantatrices, il y en a qui oublient la leçon de Callas.
À travers la diversité de son art, Callas surprend encore. Le sens du risque l'accompagne toujours. Après l'enseignement, la mise en scène des Vêpres siciliennes, aux côtés de Giuseppe Di Stefano, à Turin, en 1973, le résultat est mitigé. Commence alors le chant du cygne. Elle fera le tour du monde. On se presse pour l'entendre. Partout, des fleurs, les larmes, les ovations couvrent l'ombre d'une voix. Après Tokyo, Hiroshima, le 11 novembre 1974, Callas chante en public une dernière fois, à Sapporo.
Bonsoir. La Callas est morte à 53 ans. Rien ne laissait supposer une fin aussi brutale. La célèbre cantatrice est décédée, semble-t-il, d'une crise cardiaque à son domicile parisien, avenue Georges Mandel, dans le 16e arrondissement. Elle ne s'était plus produite sur une scène depuis 1960.
Il était à peu près 2h30, 3h. Elle était morte à 1h30 de l'après-midi. Et elle était déjà sur son lit de mort. Sa femme de chambre et confidente, Bruna, amie de tous les instants, de toutes ces années, de toutes ces... Enfin, quelque chose qui est inimaginable, une complicité entre ces deux femmes qui est inimaginable, lui avait fait une admirable natte avec ses cheveux splendides qu'elle avait, très très longs. Elle lui avait fait une admirable natte de côté. Elle avait le bas du visage légèrement bleuté, mais un très très joli bleu, probablement suite à soit une rupture d'anévrisme, soit une crise cardiaque qui avait laissé une trace, mais d'un bleu extraordinaire. Elle reposait avec une expression d'une jeunesse et d'une beauté et d'une poésie absolument extraordinaire. Et j'ai eu immédiatement, en la voyant, le sentiment de revoir la Maria que j'avais connue et que j'avais tant aimée dans Traviata à la Scala en 56. Il y avait une sorte de sourire, il y avait une sorte de paix, il y avait une sorte de... et de beauté qu'elle avait incarnée jusque dans sa mort.
Une vie, une œuvre, Maria Callas, 1923-1977, par-delà la légende. Avec Irma Colassi, Janine Reiss, Michel Glotz, Hector Bianchetti, René Tsekati, Michel Poisa, Réal La Rochelle, Sergio Segalini. Archives, voix de Maria Callas et de Marguerite Duras.
C'est une sorte d'adoration qui est venue très tard, après sa mort. Elle exprimait la musique. Elle n'a pas pu chanter. Très peu. Elle est morte de musique. C'est la musique, Callas. Cette voix éraillée, cette voix de morte qu'elle a quelquefois. De mourante. Elle a battu toutes les autres voix du monde entier. Rien ne peut que se comparer à cette beauté mourante de la Callas.
Texte lu par Anne Alvaro et Anna de Carvalho. Pierre Mine, Romain Lenoir, Olivier Guérin, François Connac.
Je pense souvent à la mort, mais je n'en ai pas peur. Pourvu que je ne souffre pas. De quoi aurais-je peur ? La gloire ? Je ne lui fais pas confiance. Quand je mourrai, je pousserai un soupir de soulagement en me disant « J'ai bien fait mon travail. J'ai été et je resterai la Callas. »
Cette émission, diffusée une première fois le 18 juin 2000, est disponible en ligne et podcast sur le site de France Culture. En septembre, à Boulogne-Billancourt, la scène musicale rend hommage à la cantatrice à l'occasion du 40e anniversaire de sa disparition. Ce sera Maria by Callas. Samedi prochain, c'est à 16h qu'Une vie, une œuvre sera consacrée à l'astronome Camille Flammarion.